Avant tout, Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est la première fois que vous venez. Bon, et nous, comme on a une radio aussi locale, service public, convoyons pas, merci d'être là. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de laisser votre maison Alfort natale ?
Alors d'abord, merci de votre invitation. Puis je suis heureux de pouvoir m'adresser aux auditeurs de Radio Alpha. Alors, écoutez, d'abord, je n'abandonne pas du tout l'engagement local et l'engagement à Maison Alfort, parce que je reste membre de la municipalité en tant que premier maire adjoint. C'est vrai que le fait de devoir interrompre le mandat de maire qui me passionnait n'était pas une chose aisée, je dois le dire, mais je garderai un ancrage local fort parce que je pense que vraiment on peut faire de la politique utile en ayant un enracinement et un contact avec les habitants au plus près.
Mais c'est un sacré défi, parce que gérer une ville, c'est une chose, gérer un département comme le Val-de-Marne, c'est autre chose.
C'est d'une autre ampleur, incontestablement. Évidemment, quand on passe d'une ville de 56 000 habitants à un département d'un peu plus d'1 300 000 habitants, avec un conseil départemental qui compte plus de 7 500 agents en poste, c'est évidemment d'une autre ampleur. En même temps, on avait aussi l'expérience, puisque je siège au conseil départemental depuis pas mal d'années, avec un certain nombre de mes collègues, donc nous ne découvrons pas la collectivité.
Alors, aujourd'hui, c'est une date d'anniversaire, le 19.
Ça aurait pu être le vôtre il y a 4 jours, mais en l'occurrence, c'est un autre anniversaire. C'est effectivement le 19 juillet. Ouais. Ça fait 2 mois que l'exécutif départemental, les vice-présidents et les conseillers délégués ont été installés. Et donc, ça a été 2 mois extrêmement actifs, les mois de la période estivale. Parce qu'il faut mettre en place de nouvelles équipes, il faut, même si on était élu depuis un certain nombre d'années, aller au fond des dossiers et découvrir un certain nombre de dossiers et faire connaissance aussi avec les chefs de service, les directeurs et tous les personnels départementaux qui sont en charge des dossiers. Donc ça a été une période extrêmement dense.
Vous savez très bien, vous êtes attendu, hein ? Parce qu'après j'ai dit 45 ans, M. Germain, oui. Après M. Favier, et ça me semble bien, bon, je cite Le Monde, je nomme Le Monde.
Oui.
Vous avez promis de ne pas casser ce qui existe et ce qui fonctionne.
Absolument, tout simplement parce que vous aviez entendu pendant toute la campagne électorale nos adversaires dire si la droite et le centre arrivent aux affaires, ils vont supprimer toute une série de politiques au détriment des Val-de-Marne. Il s'avère que les Val-de-Marnais ne les ont pas écoutés sur ce point et nous ont fait plutôt confiance. Et évidemment, nous allons respecter cet engagement. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une série de politiques qui sont mises en place. Je pense à la carte, au remboursement de la carte imaginaire à 50%. Je pense aux crèches départementales. Je pense aussi aux
forfaits
Ordival. L'opération de distribution des Ordival est en cours depuis une semaine. J'ai lancé l'opération la semaine dernière.
Le 12, je crois.
Et bien, absolument. Si vous voulez, je ne vois pas pourquoi on viendrait supprimer des dispositifs que nous avons nous-mêmes toujours soutenus quand nous étions dans l'opposition, voire même pour certains d'entre eux, initiés. Donc évidemment, ces dispositifs seront maintenus. Nous l'avions promis et donc je pense que les Val-de-Marnais se sont rendus compte, comme vous le disiez, les Ordival a débuté, les forfaits améthystes ou les forfaits pour les jeunes sont toujours remboursés.
Et donc il n'y aura pas de... L'améthyste va continuer.
Absolument.
Bon, merci.
Je vous confirme.
Alors, justement, je voulais poser la question. Alors, les premières actions.
Oui.
J'ai l'impression que, bon, commençons par le RSA. Vous dites qu'il faut changer complètement, bon, pas le système, bon, bien que c'est le département qui finance, attention, parce que l'État apparemment...
C'est une politique de solidarité nationale, c'est pas nous qui définissons...
Oui, mais vous payez une partie.
C'est toute la question, c'est que l'État, c'est une politique de solidarité nationale qui est financée en grande partie et de plus en plus par les départements. Et sur lesquels nous n'avons aucun moyen d'action, enfin, ou très peu de moyens d'action, je vais y revenir. Il faut savoir que par le RSA, aujourd'hui, c'est pour un département tel que le nôtre, 25 millions d'euros de règlements par mois. Donc vous voyez la somme. Et sur cette somme-là, l'État ne nous compense que très légèrement, alors que, encore une fois, c'est une politique nationale. Pour tout vous dire, on est à un reste à charge d'environ 150 à 160 millions chaque année. Donc il faut que l'État prenne conscience de cette difficulté parce que pour tous les départements c'est une réalité, pour le département du Val-de-Marne singulièrement. Donc je sais qu'il y a des réflexions dans les nouvelles lois.
Je m'excuse parce que par exemple le 92 Haute-Seine, ça n'a pas ces problèmes-là, c'est un des départements les plus riches.
Oui, le fait, ils ont sans doute un peu moins d'allocataires, mais ça, on pourra en discuter avec eux régulièrement, ou avec le département de la Seine-Saint-Denis qui est beaucoup plus impacté. C'est une vraie problématique pour l'ensemble des départements. Parce que.
Donc il faudrait mutualiser tout ça peut-être?
Ben, il faut repenser. Il y a des expérimentations qui sont faites. Par exemple, je sais qu'en Seine-Saint-Denis, ils travaillent avec l'État actuellement, notamment dans le cadre de nouveaux dispositifs législatifs sur la question de la recentralisation du RSA. C'est une question ce qui se pose. La réponse n'est pas simple. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'État a vraiment donné une politique, fourni une politique au département que les départements doivent financer, sans donner les moyens de compensation.
Voilà. RSA, vous dites qu'il faut un accompagnement des allocataires.
Oui, l'idée c'est que l'accompagnement des allocataires, donner une allocation, ce n'est pas pour la vie normalement. C'est aider quelqu'un qui en a besoin à un moment donné. Un accident de la vie, ça peut arriver à tout le monde et il faut évidemment que la collectivité soit au plus près. Mais il faut aussi aider à s'en sortir de cette situation et permettre aux gens de vivre de leurs propres moyens. Donc, d'où une proposition sur laquelle on est en train de travailler, que nous avions fait pendant la campagne et que nous allons mettre en œuvre, ce qu'on appelle, nous, le kit de retour à l'emploi. Mmh. C'est parce qu'on a pris conscience, évidemment, que quand quelqu'un qui est allocataire retrouve un emploi, il y a des frais liés à la reprise de l'emploi. Tout simplement le fait des frais de garde pour les enfants, qui n'était pas forcément le cas auparavant, des frais de transport, et les remboursements n'interviennent qu'un mois après, une partie des frais de transport ne sont pris par l'entreprise qu'un mois après la reprise de l'emploi. Toute une série de liés aussi à l'habillement. Et donc, pour aider les gens à franchir ce cap, on voudrait mettre en place une aide temporaire pour leur permettre d'affronter ces dépenses supplémentaires quand on retrouve un emploi.
Et ça sera une réalité quand vous avez une échéance?
Je ne veux pas vous répondre. Le budget, l'étape essentielle en termes de budgétaire, ça sera le budget 2022.
Mais on va y revenir, parce que, bon, comme dirait l'autre, c'est le nerf de la guerre.
Absolument.
Et quelle guerre des départements et des communes envers l'État, avec l'État. Alors, le logement social.
Oui.
Alors, il y a un certain nombre de villes dans 94 qui ne veulent pas, tout simplement de logement social. Bon, non, parce qu'on ne respecte pas la loi en 2 et quelques pourcents. Et vous dites, bon, sur le département, il y en a déjà assez. 40%. 40%, car il y a des villes qui ont plus de 40% de logement social.
Alors, en réalité, sur cette question du logement social, il n'y a plus réellement de communes qui disent nous ne voulons pas de logements sociaux. C'est plus vraiment la question. La question, c'est une question qui est au-delà de ça maintenant. La question, c'est la question de la mixité sociale. Et de faire en sorte que les villes soient équilibrées et que l'urbanisme soit équilibré et le logement soit équilibré, la politique du logement. Et donc, ce que nous avons choisi, c'est de tout simplement...
Oui, parce que je peux vous lire, je confirme par ailleurs que les villes qui comptent plus de 40% de logements sociaux ne bénéficieront plus de subventions pour en construire davantage, mais pour les entretenir, isoler ou réhabiliter.
C'est exactement ça. Nous allons arrêter de financer au niveau du département les projets de construction de logements sociaux dans les villes qui en comptent déjà beaucoup, plus de 40%.
Champigny, etc.
Il y a Bonneuil, où il y a 70%.
Même Créteil.
Voilà. Et donc, ce qui ne veut pas dire que nous n'allons pas mettre des crédits pour les logements sociaux dans ces communes. On va mettre des crédits pour aider à la réhabilitation et à l'amélioration des conditions de vie dans ces immeubles. Et en revanche, les crédits seront plutôt affectés aux communes qui ont trop peu de logements sociaux, qui sont carencées, notamment pour leur permettre de construire davantage de logements et donc d'arriver à une certaine mixité. Et deuxièmement, nous vous le souhaitons aussi, développer l'accession sociale à la propriété. Ça va être un axe important de notre action.
Alors, il y a un certain nombre d'organismes d'HLM qui sont en train de vendre des logements. Alors, on sait qu'il y a un manque criant, surtout ici, dans la région parisienne, de logements sociaux et très sociaux, parce qu'on oublie ça, quelqu'un qui touche le SMIC... Bon, qu'est-ce qu'ils peuvent évaluer, quoi? Une cave au troisième sous-sol?
Alors moi, je ne suis pas favorable aux ventes des logements sociaux. Je ne l'étais pas quand j'étais maire.
D'accord.
Je ne le voulais pas dans ma commune parce qu'il y a en plus une aberration qui consiste à nous dire vous devez atteindre un taux de 25% de logements sociaux dans toutes les communes. Et parallèlement, l'État dit aux bailleurs sociaux, vous pouvez vendre des logements. Donc c'est un peu ubuesque, parce que vous vous retrouvez avec à chaque fois une baisse du nombre de vos logements sociaux, et là-dessus, à ce moment-là, l'État vient vous mettre des amendes en disant vous n'avez pas assez de logements sociaux. Donc c'est quand même une politique un peu ridicule. Mmh. Donc il faut absolument aider au développement des logements sociaux là où il y en a le plus besoin, c'est-à-dire là où il y en a le moins, et des logements sociaux de toute catégorie, ce qui va des logements les plus sociaux, comme ce qu'on appelle les PLAI, mais aussi avoir une gamme intermédiaire, parce qu'il faut que toutes les catégories de population, si on veut une vraie mixité, il faut que dans chaque ville, on puisse avoir que toutes les populations et tous les habitants puissent trouver une solution.
Mmh. Alors, une solution au logement, je ne sais pas comment on fait, parce qu'on entend l'État. Et il a réduit le financement des organismes d'HLM. Mmh. Les allocations familiales ont été réduites. Bon, on marche sur la tête, que j'ai le droit de parler comme ça, non ?
Ben écoutez, c'est plutôt à l'État qu'il faudrait s'adresser.
Non, non, d'accord.
Au président du conseil départemental.
Vous êtes un élu local.
Mais tout à fait. Non, mais
vous avez.
Ah, on est confronté. Particulièrement après cette pandémie, on voit bien que la pandémie et la crise sanitaire ont malheureusement impacté socialement une partie importante de la population. Les choses commencent à s'améliorer doucement. Doucement, mais il y a un accompagnement social à assurer auprès des plus fragiles. Et c'est vrai que la solidarité, la politique de solidarité, elle ne peut pas se faire uniquement par les collectivités locales. L'État doit y prendre largement sa part, parce que c'est une politique, encore une fois, de solidarité nationale.
Oui, ben, faut-il encore, on dit ça, d'avoir les moyens de le faire, parce qu'il y a, parce qu'il y a des gens qui disent que le pire est à venir. À savoir, pour le moment, les entreprises sont... On reçoit des fonds, des aides. Alors, quand ça va s'arrêter, est-ce que vous craignez pour le bassin d'emploi du 94 au niveau des emplois? Parce qu'il y a cet nombre de secteurs qui sont complètement sinistrés.
Il y a des secteurs qui sont sinistrés. Il y en a d'autres qui, au contraire, ont pu, au travers de la crise, profiter de certaines opportunités de développer leur activité.
La grande distribution, par
exemple. Donc, on est extrêmement attentif, et c'est une vraie question que vous posez, parce que les aides vont petit à petit se disparaître, les aides importantes que l'État attribuait aux entreprises.
Il va falloir rembourser
Il y a la question du remboursement. Alors, justement, vous savez que la région, par exemple, qui avait fait des prêts avec les territoires, envisage très sérieusement d'annuler la dette de ces entreprises et de ne pas demander le remboursement. On est donc très attentif pour voir quelle est l'évolution de la situation pour les entreprises. Les premiers contacts qu'on a avec la Chambre de commerce et d'industrie ou avec des entrepreneurs ne montrent pas pour l'instant une dégradation de la situation. Mmh. Mais il faut regarder ça dans la durée, parce que il va falloir prendre plusieurs mois pour s'assurer que la situation reste stable, et sinon il faudra entre départements et entre collectivités se parler pour essayer d'apporter un soutien.
Alors, une question peut-être bête, je vais faire l'avocat du diable. Dans ces conditions, comment préparer un budget pour l'année prochaine?
Comment préparer un budget? Vous avez là encore parfaitement bien ciblé les choses. Vous savez, pour un département, on est soumis à deux contraintes. On est dépendant du montant du RSA, avec des sommes considérables, je vous dis, c'est 250 millions à 300 millions d'euros par an. Et une de nos principales ressources, c'est ce qu'on appelle les droits de mutation. Vous savez, c'est les taxes qu'on touche sur les ventes. Il se trouve que nous sommes dans une période plutôt de ce côté-là aussi.
Ça, au contraire. Ça a repris.
Ah oui, absolument. C'est une année assez... le marché immobilier se porte bien. Donc ça, c'est plutôt une satisfaction. Néanmoins, on est dépendant. C'est pas nous qui décidons des choses. Ça peut aller bien à une époque et puis très vite, le marché se retourner et donc avoir moins de ressources. Donc on est dépendant dans nos recettes et dans nos dépenses de facteurs extérieurs qu'on ne maîtrise pas. Donc déjà, ça, c'est une première complexité. Mmh. Donc face à ça, on a décidé de lancer à notre arrivée un état des lieux au niveau du département.
Un audit ou pas?
Je préfère dire état des lieux.
D'accord.
Audit a un côté, oui, très...
Attention, on se méfie des comptes.
Non, non. Un état des lieux financier, organisationnel et fonctionnel du département, qui va nous permettre justement d'avoir une vision globale sur l'État et la manière de trouver des marges de manœuvre. À la fois, il va falloir sans doute faire un plan pluriannuel de réduction des dépenses de fonctionnement.
Est-ce que ça va passer par la réduction du nombre de fonctionnaires aussi?
C'est pas prévu comme tel. On part pas de ce principe-là ou de ce postulat. On part du fait de dire quelle est l'organisation, quel est l'état des lieux financiers, comment on peut optimiser les choses pour réduire les dépenses de fonctionnement qui sont élevées dans notre département. pour justement avoir se permettre d'avoir des marges de manœuvre pour un programme d'investissement. Et ça va être essentiel. Et donc, on doit faire preuve, dans une situation difficile où les ressources sont limitées, on doit faire preuve de sobriété en matière de dépenses publiques. Et d'ailleurs, on a pris, dès qu'on est arrivé, un certain nombre de mesures qui ne vont pas rétablir l'équilibre budgétaire, mais qui montrent bien le sens de notre action.
Un exemple
très concret. Jusqu'à maintenant, tous les vice-présidents du département, les conseillers qui avaient une délégation, avaient un véhicule de fonction. C'est terminé. Il n'y en a plus. Il y a maintenant un pool de 5 véhicules à disposition quand il y a un besoin pour une mission d'un vice-président. Mais ça veut dire qu'on a réduit par 3 le pôle de véhicules pour les élus.
Monsieur le Président, on attendra justement ce budget. En attendant, quand on parle budget, c'est... vous avez une fonction très importante, comme les maires d'ailleurs, c'est assurer les services publics.
Oui.
Donc, 94. On va compter le nombre de bureaux de poste qui ont fermé. Des permanences, la CAF, la Sécurité sociale. J'aime pas si les meilleurs. Alors après, on se plaint qu'il y a des problèmes dans les quartiers. Comment arrêter l'hémorragie?
La présence des services publics dans les quartiers est un élément essentiel. Moi, je me suis toujours opposé aux fermetures. Et là, c'était un combat, vous voyez, qui est œcuménique. Hein, c'est pas une question de droite, de gauche. C'est un comportement d'élus locaux qui sont au plus près des habitants. Et les habitants viennent leur dire... des fois leur désespérance de voir ces services publics fermés. Il y a encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, des menaces sur la fermeture de services publics, notamment de postes dans un certain nombre de communes, voire de réduction d'horaires. C'est pas toujours des fermetures fermes, mais des réductions d'horaires. Et on exprime tous notre opposition à la Poste. Alors on comprend bien, la Poste nous dit par exemple le volume de courrier se réduit de façon drastique, il y a d'autres modes de distribution des colis, Amazon en est une illustration.
C'est là aussi où les petites gens, comme on dit, vont chercher
pas les
leur retraite.
Et je suis bien d'accord avec vous. Et donc sur ce plan-là, nous ne pouvons pas accepter la disparition de ces services publics locaux. Il faut sans doute... on veut bien inventer de nouvelles formes, mais encore une fois, ce n'est pas toujours la collectivité locale qui doit être là pour se substituer à des services publics qui jusqu'alors existaient et avaient une vraie mission vis-à-vis de nos habitants.
Voilà, tout à l'heure, j'ai parlé de la Sécu, de la Poste, il y a la CAF, etc. etc.
Bien sûr.
Alors maintenant, tout marche par Internet. Bon, je vois bien. Mais il existe ce qu'on appelle une fracture
bien sûr.
Numérique. Tout passe. Hein, par exemple, pour changer l'adresse sur une carte grise... Allons-y, je vous souhaite bon courage. Hein. Avoir le permis, c'est d'être tout un tas de choses. Tout est numérique. Où on va, parce que s'il y a une panne, s'il y a n'importe quoi. Alors, comment on fait si les services publics de proximité disparaissent? Comment on va faire?
Vous résumez parfaitement la situation et la question de l'accompagnement des personnes les plus éloignées du numérique. Dès qu'ils ne sont pas, d'ailleurs, on a tendance des fois à dire que c'est forcément des seniors. Ce n'est pas forcément que les seniors, loin s'en faut, est une vraie question. Alors, il faut dire que les collectivités locales, les mairies notamment, font beaucoup en la matière pour permettre, aider les plus éloignés du numérique. À les aider à faire l'apprentissage et à faire des démarches, les accompagner. Il y a quand même un certain nombre de services qui existent de proximité. Néanmoins, on ne peut pas substituer le contact humain par la machine en permanence parce que on perd aussi... la machine fonctionne toujours bien quand il y a toujours les mêmes questions et le même protocole. Dès qu'on sort un peu du problème classique, là, il n'y a plus personne et c'est là que l'humain doit reprendre sa place.
Oui, d'accord. Bon, mais déjà avant, pour avoir le pass sanitaire,
c'est ça.
Il fallait avoir accès à un ordinateur ou une imprimante, etc. Alors, maintenant, c'est l'iPhone avec le QR code, j'en passe les meilleurs. Alors, on annonce peut-être pour prendre le métro, utiliser l'iPhone. Bah, alors, ça coûte combien un iPhone? Pourquoi ces nombre de choses sont réduites comme ça? La technologie, et on est obligé d'avancer. C'est-à-dire, si les services publics s'alignent là-dessus, où va-t-on?
On ne peut pas aller jusque-là. Il y a des générations, il y a toute une série de personnes qui apprécient ce type d'évolution parce qu'ils sont totalement adaptés à ces évolutions technologiques. Mais il faut prendre en considération en permanence la totalité de nos habitants et la totalité des réalités personnelles. Et donc, forcément, notamment quand on est un service public, on doit s'adapter aux besoins de chacun et pas l'inverse. c'est pas les personnes qui doivent s'adapter au service public, c'est l'inverse. Je suis, en tout cas, c'est en tout cas ma philosophie.
Monsieur le président du conseil départemental du Val-de-Marne, il faut le dire à Pôle emploi, entre autres. Hein. Bon, je pense que c'était de toute façon. Bon, merci d'être venu ici.
Merci à vous.
Première prise de contact et on va être. Comme c'est notre habitude depuis que la radio existe, être sur les dossiers, poser des questions et essayer d'avancer.
Ça sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, je profite pour souhaiter un bon dimanche à tous vos auditeurs.
Merci bien.
Merci à vous.
À très bientôt.